الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، hier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons entamé l'étude des règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. On a pu ainsi voir le sens du jeûne dans la langue arabe et dans la religion, puis le jugement du jeûne du mois de Ramadan, ainsi que sa grande place en islam, c'est un pilier de l'islam. On a pu mentionner la grande sagesse du jeûne du mois de Ramadan, devenir pieux, et d'autres sagesses. Puis les étapes par lesquelles sont passés les compagnons dans l'ordre du jeûne, car le jeûne du mois de Ramadan a été ordonné en l'an 2 après l'Hégire, mais graduellement et progressivement. Puis nous avons pu voir les conditions d'obligation du jeûne ainsi que les conditions d'authenticité. Après cela, on a mentionné par quoi le mois, l'entrée du mois est avérée. Quels sont les deux signes qui nous permettent de commencer le jeûne du mois de Ramadan. On a aussi vu les deux piliers du jeûne, l'abstention et l'intention. On a vu le cas de celui qui voyage d'un pays à un autre. Lorsque ces deux pays diffèrent dans leur vision de la nouvelle lune ou de la fin du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, on va commencer notre cours par Ahlul A'dhar wal Mawani'a, ceux qui ont une excuse pour ne pas jeûner. Ceux qui ont une excuse pour ne pas jeûner. Et ça concerne Al-Musafir, ou d'abord Al-Marid, le malade. Deuxièmement, Al-Musafir, le voyageur. Troisièmement, la femme qui est indisposée. Quatrièmement, la femme qui est enceinte ou qui allaite. Ces gens-là ont un traitement particulier concernant le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne de manière générale. Barakallahu fikoum. Commençons par le malade. Commençons par le malade. Nous avons vu précédemment que le malade, il lui était permis de rompre le jeûne dans le cas où sa maladie lui rend le jeûne particulièrement difficile à supporter ou que sa maladie aggrave son état ou repousse sa guérison. Dans ces cas-là, il a la permission de rompre son jeûne. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Il rattrapera un nombre de jours égal dans le cas où il coupe son jeûne. Et on a vu que le malade se divisait en deux. Celui qui a une maladie de laquelle il n'espère plus la guérison, alors il devra nourrir un pauvre par jour non jeûné. Comment est-ce qu'il va nourrir ce pauvre? Comme il le souhaite, soit il lui donne directement de la nourriture, soit il prépare à manger et le nourrit, soit il l'invite à manger, soit il fait jour par jour, soit fait semaine après semaine, soit il fait à la fin du mois pour 29 ou 30 pauvres d'un coup, et ainsi de suite. Et s'il ne trouve pas, il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse dans la même famille. S'ils sont 7 la première semaine, il leur donne pour 7 repas, la deuxième semaine pour 7 repas, la troisième semaine pour 7 repas, plus il complète à la fin du mois. Barakallahu fikoum. Et dans le cas où il souhaite déléguer, il peut confier l'argent à une personne fiable qui, elle, va se charger de nourrir ceux qui sont dans le besoin. Quant au fait de donner directement de l'argent aux gens qui sont dans le besoin et peut-être ils vont acheter, peut-être qu'ils vont payer des factures, peut-être qu'ils vont faire ceci ou cela, cela n'est pas valable. Il faut que ce soit, faut qu'il soit nourri. Barakallahu fikum. La personne, par contre, qui elle est malade pour une maladie passagère, elle rompt son jeûne et elle rattrape un nombre de jours égal. Et combien de temps a-t-elle pour faire cela? Elle a jusqu'au Ramadan de l'année prochaine. Il faut qu'elle ait rattrapé l'ensemble de ses jours avant le Ramadan de l'année suivante. Sauf dans le cas où sa maladie dure. Alors il rattrapera quand il le pourra. Il rattrapera quand il le pourra. On passe à la deuxième catégorie. Il s'agit du voyageur. Pareillement, Allah nous dit, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. S'il rompt son jeûne, alors il rattrapera un nombre de jours égal. Le voyageur a le droit, a le choix entre le fait de jeûner et de rompre son jeûne. Il a le choix entre le fait de jeûner et de rompre son jeûne. Du moment ou bien toute la durée de son voyage. Toute la durée de son voyage. Quelle est la meilleure chose à faire? La meilleure chose à faire, c'est ce qui lui convient le mieux. Donc si de jeûner pendant le mois de Ramadan avec les musulmans, c'est ce qui lui est le plus simple, alors c'est le mieux à faire. Et si en voyage, ça lui est pénible ou plus difficile, dans ce cas-là, le mieux c'est de rompre son jeûne et de le rattraper à un autre moment de l'année. Et si ça lui est égal, les savants conseillent alors de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il aura fait son jeûne dans le mois de Ramadan avec la communauté des musulmans et qu'il n'aura pas à sa charge en dette une adoration, ne sachant pas de quoi demain est fait. Aussi, s'il commence à jeûner un jour, il a le droit de le rompre. Il peut se dire « je vais jeûner », puis il voit que ça lui est lourd, alors il coupe son jeûne. Et vu qu'il coupe, il peut couper son jeûne, toutes les autres restrictions, il s'en voit libéré. Le fait de manger, le fait de boire, le fait de commercer avec son épouse, si tous deux sont en voyage, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Ensuite, on a le, yani la personne qui souhaite voyager, qui n'est pas encore en voyage. Quand est-ce qu'elle peut rompre son jeûne? Les savants ont divergé sur cela. Certains ont dit de chez elle, elle peut couper son jeûne. D'autres ont dit, il doit être sorti, ne plus voir ses habitations. Par exemple, être à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'il se peut que finalement, de chez elle, elle ne voyage pas. Naam, elle n'est pas sortie, elle n'a pas commencé son voyage, son déplacement, la sécurité et qu'elle ne coupe pas son jeûne. La sécurité, qu'elle ne coupe pas son jeûne. Mais une fois, par exemple, à l'aéroport, naam, ou dans l'avion, naam, à ce moment-là, il n'y a aucun doute qu'elle peut couper son jeûne. Barakallahu fikou. Qu'en est-il de celui qui rentre de voyage? Il était en voyage, il ne jeûnait pas, et sur le chemin du retour, il arrive, naam, il arrive, et c'est encore la journée de Ramadan. Est-ce que ce dernier se doit de rompre son jeûne, de s'abstenir de manger, de boire et ainsi de suite les heures restantes? Ou alors, il poursuit ce qu'il a commencé, à savoir, il est muftir, il ne jeûne pas. La réponse est que le jugement du début est le même pour la fin. Le jugement du début, c'est qu'il était voyageur,
Il avait donc la permission de ne pas jeûner. Il a pris cette permission, cette facilité qu'Allah Azzawajal lui a accordée. Eh bien, c'est le même jugement pour la fin de la journée. Il arrive, il lui reste 3-4 heures, il est muftir, il peut poursuivre sa journée de la sorte. Il peut poursuivre sa journée de la sorte, bien qu'il soit arrivé chez lui. Mais bien sûr, il devra, Mada, il devra rattraper ce jour-là. Il devra rattraper ce jour-là. Et Ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala, nous mentionne une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Man akala awwal an-nahari falyakul akhira. Celui qui a mangé au début de la journée, qu'il mange à la fin de la journée. Ça revient à ce qu'on a mentionné. C'est-à-dire que le jugement du début s'applique pour le jugement de la fin également. Aussi, un cas sur lequel on est questionné parfois, c'est celui qui, en voyage, jeûne. Plus tard, il se dit, je pense que je vais couper mon jeûne. Je pense que je vais couper mon jeûne. Il veut aller manger ou bien ça lui est difficile et ainsi de suite. Il se dit, par exemple, si je passe près d'un commerce ouvert, eh ben, j'achèterai à boire ou à manger. Donc, est-ce que lui, il est toujours en état de jeûne? Une heure après, il se dit, ah, finalement, il reste une heure. Je vais patienter et je vais gagner cette journée de jeûne. Quel est le jugement de son jeûne? Son jeûne est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un doute dans son jeûne. Il a eu un doute dans le fait de le rompre. Et il y a une grande différence entre les deux. Celui qui ne met pas une intention ferme de jeûner n'a pas de jeûne. N'a pas de jeûne. Mais celui qui a mis une intention ferme de jeûner, il est en état de jeûne. Eh bien, il ne sort pas de son jeûne tant qu'il n'a pas fait l'annulatif du jeûne. Et là, il n'a pas coupé l'intention. Il a pensé à couper l'intention. Donc, c'est rattaché au futur. Tant qu'il n'a pas fait ce qui annule le jeûne, son jeûne est valable. Donc, se dire en soi, je vais couper mon jeûne, je pense à couper mon jeûne, n'est pas un annulatif du jeûne. Contrairement à ce qu'on va voir dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala, celui qui coupe fermement son intention. On passe à la troisième catégorie de ceux qui sont excusés de jeûner. Al-ha'idu wa nufasa, la femme qui a ses menstrues ou ses loshi, c'est-à-dire le sang qui sort juste avant l'accouchement ou après. Concernant ces deux catégories de personnes, elles sont excusées, et mais plus encore. Il leur est interdit de jeûner. Il leur est interdit de jeûner. Et en plus de cela, elles doivent rattraper ces jours de jeûne. Elles doivent rattraper ces jours de jeûne. Quant au fait de s'abstenir, de manger, de boire, ainsi de suite, elles n'ont pas cette obligation. Elles n'ont pas cette obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve qui atteste de cela. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui atteste de cela. Une femme a demandé à Aïcha radiallahu anha sur le fait de ne pas jeûner. Pourquoi nous les femmes, lorsque on est indisposé, on rattrape le jeûne, mais on ne rattrape pas la prière? Aïcha lui a dit, c'est ainsi qu'on nous a ordonné, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de jeûner alors que la personne est indisposée, c'est haram. Naam, c'est haram. Donc, elle a l'obligation de rompre son jeûne et l'obligation de le rattraper. Certaines demandent, est-ce que je peux nourrir un pauvre? Est-ce que je peux faire ceci ou cela? Non, il n'y a pas d'autre chose à faire. Si elle est indisposée, elle doit rattraper. Elle ne peut pas faire autre chose à la place du rattrapage. Contrairement à la femme qui est enceinte ou qui allaite. Contrairement à la femme qui est enceinte ou qui allaite. Barakallahu fikum. Et pareillement, elle a jusqu'au Ramadan de l'année suivante pour rattraper ses jours. Dans le cas d'un empêchement, elle note ses jours et elle les rattrape ultérieurement. La quatrième catégorie, el hamil wal murdi'a, la femme enceinte et la femme qui allaite. Ces femmes-là, si elles peuvent jeûner, c'est une bonne chose. Dans le cas où elles ne veulent pas jeûner, naam, dans le cas où elles ne veulent pas jeûner, qu'elles craignent pour sa personne ou pour l'enfant ou pour les deux, dans tous ces cas-là, elle peut rompre son jeûne. Ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Naam, qu'est-ce qu'elle va faire? Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ont mentionné qu'elle nourrit, que la femme enceinte ou la femme qui allaite nourrit un pauvre par jour non jeûné. Donc, la femme qui est enceinte ou qui allaite, on lui dit de jeûner. Si elle dit que, par exemple, elle n'a pas assez de lait, ou qu'il n'est pas assez riche pour son enfant, ou que ça lui est trop difficile et ainsi de suite, alors on lui dit qu'elle peut, soit elle rattrape, soit elle nourrit un pauvre. Soit elle rattrape, soit elle nourrit un pauvre. Naam. Et cela lui suffit. Comment est-ce qu'elle va nourrir un pauvre? Comme on a expliqué pour le malade. Un pauvre par jour non jeûné. Soit elle prépare à manger un repas rassasiant, soit elle délègue qui va acheter de la nourriture, et soit on leur donne des denrées alimentaires à hauteur de la moitié d'un saa, ce qui équivaut à environ 750 grammes de nourriture, environ 1 kilo, si vous voulez arrondir, de nourriture, selon les denrées alimentaires. Dans ce cas-là, Ibn Asim, ta'ala, a dit pour ceux qui nourrissent, pour ceux qui nourrissent parce qu'ils sont malades ou autres, il dit il est bon d'ajouter ce qui va rendre le repas plus agréable, comme de la viande ou d'autres accompagnements. Barakallahu fikoum. La règle étant de faire aux autres ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse. Ça, c'est le cas de la femme qui allaite et de la femme qui est enceinte, à condition qu'il n'y ait pas de menstrues, qu'il n'y ait pas de loshi, parce qu'on a mentionné le cas de la femme indisposée. Dans tous les cas, elle n'a juste à rattraper. Barakallahu fikoum. Certains savants rentraient dans cette catégorie, la personne qui s'évanouit, ou la personne qui perd la raison, toute la journée. Naam, toute la journée. Et ne se réveille même pas une partie de la journée. Cette personne-là, son jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la plume est levée s'il a perdu la raison. Et s'il s'évanouit, il n'a pas mis l'intention. Naam, il n'a pas mis l'intention. Donc, celui qui s'est évanoui, il doit rattraper son jeûne. Par contre, s'il s'agit d'une partie de la journée et pas de toute la journée du jeûne, naam, eh ben le jeûne est valable. Pourquoi? Parce qu'il avait mis l'intention, parce qu'il n'a pas commis d'annulatif du jeûne. D'accord? Lui, son jeûne est valable. Par pourquoi? Il a les deux piliers, l'intention et l'abstinence. Ce sont les deux piliers du jeûne. Ce sont les deux piliers du jeûne. Barakallahu fikoum. Et on ne parle pas de celui qui dort toute la journée. Bien que son intention soit douteuse et qu'il n'a pas compris le précepte du jeûne, naam, il n'a pas le même jugement. Naam, pourquoi? Parce que lui n'a pas perdu la raison. Lui n'a pas perdu la raison. Bien que ce ne soit pas une chose à faire, ça serait une grande perte de passer son mois de Ramadan en dormant tous les jours. illa billah.
Passons maintenant à ce qu'on appelle mubtilat al-siyam, al-mufattirat. Naam, les annulatifs du jeûne.
Les annulatifs
du jeûne. Quelles sont les choses qui annulent le jeûne de la personne? Premièrement, al-aklu wa shurb, le fait de manger ou de boire. Donc, de faire entrer quelque chose par la bouche. Naam, de faire entrer quelque chose par la bouche. Et bien évidemment, ça va à l'estomac. Que ce soit une chose comestible ou non, une chose habituelle ou non. Par exemple, du pain, de l'eau, mais aussi du sable ou de la cigarette ou et ainsi de suite. D'accord? Donc, toutes ces choses annulent le jeûne de la personne. Ça, c'est le premier annulatif le plus connu. C'est le premier annulatif le plus connu. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Et entre dans le même, ou bien a le même jugement, la personne qui s'injecte une chose, même si ce n'est pas par la bouche, et qui a pour effet de renforcer la personne. Qui a pour effet de renforcer la personne. Comme les piqûres nutritives. Les piqûres nutritives, naam, ça annule le jeûne. Les piqûres nutritives annulent le jeûne. Pourquoi? Parce que ça a l'effet de manger ou de boire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, وَكُلْ وَشْرَبُوا حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, puis du fajr, puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith qu'Allah azza wa jal dit yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Il délaisse sa boisson, sa nourriture et sa boisson pour moi. Taïb. Ensuite, il y a ce qu'on appelle as-sa'ut. Il s'agit d'ingérer quelque chose, mais pas par la bouche, par le nez. Cela annule le jeûne. La preuve, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Fais bien pénétrer l'eau dans tes narines lorsque tu fais les ablutions, sauf quand tu es en état de jeûne. Ce hadith, rapporté par Ahl Sunan et l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim, est la preuve que le nez est un conduit qui annule le jeûne. Que ce soit des médicaments, que ce soit volontairement mettre de l'eau ou autre. Si la personne met dans le nez que ça descend derrière volontairement, elle aura annulé son jeûne. Donc je répète, pour tous ceux qui ont des piqûres à faire et ainsi de suite, ça n'annule pas le jeûne, sauf si ce sont des piqûres, al-ibar al-muradhiya, des piqûres nutritives. D'accord? Enfin, les savants ont divergé pour ceux qui entrent par l'autre conduit, à savoir par le derrière, les suppositoires et autres. Est-ce que ça annule le jeûne? Naam. Est-ce que ça annule le jeûne? L'avis prépondérant chez beaucoup de savants est que ça n'annulait pas le jeûne. Pourquoi? Par rapport à l'absence de preuves. Le nez, on l'a mentionné parce qu'il y a le hadith. Mais les piqûres, les savants les ont mentionnés parce que ça, c'est nourrissant. Naam. Quant aux médicaments,
ou quant au fait de mettre du kahol dans les yeux ou ce genre de choses, naam, ça n'a pas la notion ni de boire ni de manger. Le deuxième annulatif, manistaqa, celui qui se fait vomir, donc volontairement. Parce que le prophète a dit manistaqa amdan falyaqdi. Celui qui se fait vomir, qu'il rattrape son jeûne. Et celui qui a vomi involontairement n'a pas à rattraper son jeûne. Donc ce hadith, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah, montre que de se faire vomir est un annulatif du jeûne, quelle que soit la méthode. Naam, en se mettant les doigts dans la gorge ou en allant volontairement sentir une odeur nauséabonde et on sait que ça nous fait cet effet-là, et d'autres manières de se faire vomir s'il y en a d'autres. Le troisième annulatif, c'est al-istimna, c'est la masturbation, c'est-à-dire faire sortir le mani, faire sortir le liquide reproducteur volontairement, avec des gestes. Si la personne arrive à sa finalité, son jeûne est annulé. Et si elle n'arrive pas à sa finalité, elle a diminué la récompense de son jeûne, elle a entaché son jeûne, mais elle ne l'a pas annulé tant que le liquide reproducteur n'est pas sorti. Et s'il ressent, puis arrête et que ça ne sorte pas, alors il n'aura pas annulé son jeûne, mais il a mis son jeûne en danger. Aussi, il est à savoir que cette pratique est interdite dans le mois de Ramadan, la journée, ou en dehors du mois de Ramadan, sauf entre époux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Ceux qui préservent leur partie, sauf de leurs épouses, jusqu'à la fin du verset. Quant à la personne qui dort et durant son sommeil a fait un rêve et au réveil elle voit le liquide, cela n'annule pas son jeûne. Cela n'entache pas son jeûne. Barakallahu fikoum. Et je répète, le liquide qui vient annuler son jeûne, c'est le liquide reproducteur et non pas celui qui le précède. Ça n'est pas le madi, ça n'est pas le liquide préséminal. Le quatrième annulatif du jeûne est qat'un niyya ou bien niyatul fitr. C'est de nouer l'intention de rompre le jeûne. La personne qui coupe son intention de jeûne et sort de son jeûne par son intention a coupé son jeûne. Car le prophète alayhi salat wa salam a dit innamal a'malu bin niyyat. Les œuvres ne valent que par les intentions. Donc dès lors qu'il coupe son intention et sort de son jeûne avec son intention, d'accord, il enlève la constance de son intention et la brise, la coupe, il sort ainsi de son jeûne, il a perdu ce jour-là. Il devra le rattraper. Contrairement à celui qui rattache ça au futur et dit « je couperai » ou « si je trouve à boire, je couperai » ou « je pense que je vais couper ». Tous ces gens-là n'ont pas coupé leur intention, mais ils ont projeté de la couper. Barakallahu fikoum. Il y a un point qu'il aurait été judicieux de mentionner dans le premier annulatif, c'est le jugement d'avaler sa salive. Ça ne coupe pas le jeûne. Ça ne coupe pas le jeûne. Par contre, al-nukhama, na'am, les glaires, les molars, na'am, qui descendent de la tête jusqu'à se mettre dans la gorge puis la bouche, c'est un corps étranger qui est venu se déposer. Cela, il faut obligatoirement l'évacuer et le cracher. Parce que maintenant qu'il est à l'extérieur, si tu l'avales, tu auras ingéré un corps étranger. Et certains savants disent que ça coupe le jeûne. Alors que celui qui passe dans la gorge de derrière, ou bien qui est dans la poitrine, et ainsi de suite, tout cela, ça n'est pas problématique. Mais celui qui descend de la tête, se loge dans la gorge, et tu le fais ressortir pour l'avaler à nouveau, c'est à l'image de celui qui a bu de l'eau. C'est à l'image de celui qui a bu de l'eau. Donc par précaution, vu que c'est l'avis de certains de nos honorables savants, par précaution, cela, il faut le recracher. Et pour savoir comment distinguer entre ces types de sécrétions, eh bien, ce qui est courant, commun et en abondance, c'est difficile de s'en prémunir. Eh bien, l'islam te facilite dedans. Et ce qui n'est pas courant, n'est pas régulier et n'est pas difficile de s'en prémunir, d'accord, l'islam aura plus de rigueur dessus. Ainsi, tu pourras te rappeler lequel peut être un annulatif et lesquels ne sont pas des annulatifs. Barakallahu fik. Il y a l'apparition des menstrues ou des lochies. C'est un annulatif du jeûne. L'apparition des lochies ou des menstrues est un annulatif du jeûne. Il y a une divergence sur el-hijama, sur la saignée, sur le fait d'aspirer le mauvais sang. Je ne parle pas de la hijama sèche, je parle de celle où on aspire et on fait sortir le mauvais sang. Naam. Du fait qu'il y a un hadith qui dit Aftar al-hajim wal-mahjoum, celui qui fait la hijama et celui à qui on fait la hijama ont coupé leur jeûne. Et qu'il y ait un autre hadith qui dit Ihtajama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'im, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama alors qu'il était, a pratiqué la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Les savants divergé sur la hijama. La sécurité, le mieux et le plus sage est de repousser la hijama au coucher du soleil pour celui qui en a besoin. Naam, pour celui qui en a besoin. Barakallahu fikum. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a Mada. J'ai oublié le terme médical, mais le lavage des... La dialyse, naam. Il y a la dialyse. Il faut savoir que la dialyse, ça annule le jeûne. Naam. La dialyse, ça annule le jeûne. Tout comme recevoir du sang, naam, recevoir du sang et le lavage du sang, on nous injecte du sang, c'est nourrissant. Ça annule le jeûne. Ça annule le jeûne. Barakallahu fikum. Enfin, il y a el-jim. Tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent, celui qui le commet a annulé son jour de jeûne. Il doit rattraper un jour de jeûne. Et si c'était un péché, en plus de cela, il doit se repentir. Et il n'y a pas d'expiation à faire. Sauf pour ce dernier annulatif, el-jima, le fait d'avoir un rapport avec l'épouse, ça annule le jeûne. Mais en plus de ça, il y a une expiation sévère. En plus de cela, il y a une expiation qui est sévère. Quelle est cette expiation? Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, halakt. Ô messager d'Allah, j'ai péri. Wa ahlakt. Et j'ai fait périr. Que t'arrive-t-il? Waqa'tu ala ahli fi nahar Ramadan. J'ai eu un rapport avec mon épouse durant la journée de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, Est-ce que tu trouves un esclave à affranchir? Il lui a dit non. Il lui a dit, Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il lui a dit non. Il lui a dit, Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il lui a dit non. Puis il s'est tu. Par la suite, on a donné au prophète alayhi salat wa salam un seau de dattes. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, Aina sa'il? Où est le questionneur? Il s'est manifesté. Le prophète alayhi salat wa salam lui a donné ce seau et lui a dit de nourrir des pauvres avec. En partant, l'homme a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, dois-je donner cela à une famille plus pauvre que la mienne? Naam, plus pauvre que la mienne. Il lui a dit, et puis il a dit, par Allah, je ne trouve pas entre ces deux endroits-là une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et a dit, nourris avec ta famille. Le prophète alayhi salatu wa sallam a souri de par le bouleversement de situation. Subhanallah, il vient en disant, j'ai péri, et il repart avec une sadaqa pour sa famille. C'est incroyable, mais vrai. Naam. La sagesse, la rahma d'Allah Azzawajal, pour cette personne qui est venue en regrettant, qui est venue repentante. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans son livre, وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, Allah Azzawajal, lui facilite une issue favorable. Quoi qu'il en soit, voici les annulatifs. Et dans le dernier, l'annulatif requiert de la part de la personne en plus une expiation. Cette expiation, elle est pour l'homme et pour la femme. Cette expiation-là, elle est pour l'homme et elle est pour la femme. Et 60 pauvres, le nombre est voulu. C'est-à-dire que il ne doit pas donner 60 repas. Il doit pas donner 60 repas et en donner 10 à la même personne, par exemple. Non, il doit chercher 60 pauvres. Il doit chercher 60 pauvres. Barakallahu fikum. Il nous reste à mentionner mustahabbat ou siyam, les choses recommandées durant le jeûne ou bien le mois de Ramadan, de manière plus générale. Les gens ne sont pas au même niveau dans leur jeûne. Certains vont sortir du jeûne de Ramadan en n'ayant que la faim et la soif. En n'ayant que la faim et la soif. Et d'autres vont atteindre les plus hauts niveaux du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de ses bienfaits. J'ai oublié un point dans les annulatifs du jeûne qu'on aurait pu mentionner, c'est al-maut, c'est la mort. Parce que le prophète alayhi salat wa salam a dit idha mata ibn adam inqata 'amalu illa min thalath. Quand le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône qui perdure, une science de laquelle on continue à tirer profit après sa mort, et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Donc s'il décède avant le coucher du soleil, ce jour de jeûne-là est annulé. Ce jour de jeûne-là est annulé. Qu'Allah Azzawajal allonge notre vie dans son obéissance. Parmi les choses recommandées dans le jeûne de Ramadan, il y a As-Sahur. Il y a le fait de prendre le repas de la fin de la nuit. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas du sahur, c'est-à-dire du moment du sahar, de la fin de la nuit, car il y a dans le sahur une bénédiction. La bénédiction dans le suivi du prophète, alayhi salat wa salam, la bénédiction dans le fait de prendre des forces et de la vigueur pour reprendre un jour de jeûne. La bénédiction parce qu'on est réveillé au moment du sahar, c'est le moment où Allah descend ciel de ce bas monde. Les du'as sont exaucés, le pardon est accordé, les grâces dispensées. C'est le moment de l'istighfar, de la demande de pardon. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui se réunissent sur la personne qui prend le repas du sahur. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik. Et aussi, il y a une distinction entre le jeûne des musulmans et le jeûne des gens du livre. Le fait de prendre le sahur, comme le rapporte l'imam Muslim. Une deuxième sunna, c'est de manger des... que le repas du sahur comporte des dates. Que le repas du sahur comporte des dates. Parce que le prophète alayhi salat wa salam a dit Ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Quel bon repas du matin, d'avant le matin pour le croyant, qu'est la date apportée par Abu Daoud. Donc de manger des dates dans le repas du sahur, c'est une bonne chose. Une troisième sunna, ta'khir ou sahur. Le fait de retarder ce repas-là. De ne pas le prendre une heure en avance, une heure et demie en avance, comme le font certains. Ils mettent sur leur calendrier el-imsak. Puis ils mettent le fajr. Or, le imsak, c'est le fajr dans le Coran. Il n'y a pas un temps de imsak en avance à faire. Cela n'est pas légiféré. D'accord? Donc, combien de temps y avait-il entre la fin du repas du prophète alayhi salat wa salam et ma'adha barakallahu fikum le fajr? Les compagnons ont été interrogés à ce sujet et ils ont dit il y avait le temps de lire 50 versets. Donc c'est très court. Na'am, c'est très court. Barakallahu fikum. Donc de retarder le sahur, c'est une bonne chose. Na'am. Une quatrième sunna, ta'ajil ou al-fitr, le fait de s'empresser, de rompre le jeûne, à condition d'être sûr que le soleil s'est couché. À condition d'être sûr que le soleil s'est couché. Le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, la yazalu nasu bi khayr ma'ajjalu al-fitr. Dans le Bukhari et Muslim, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de couper le jeûne. Les savants disent, à condition d'être sûr que le soleil s'est couché. À condition d'être sûr que le soleil s'est couché. Barakallahu fikum. Et l'adoration, c'est pas dans la souffrance. L'adoration, c'est dans la soumission. Il ne t'est pas demandé de décupler ta faim ou ta soif. Ce qui t'est demandé, c'est de te soumettre à Allah Azza wa Jal, de suivre le prophète alayhi salat wa salam. Barakallahu fikum. Parmi les sunan, le fait de couper son jeûne avec des dates fraîches. Si on n'en trouve pas, alors avec des dates sèches. Si on n'en trouve pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Comme c'est venu dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Il rompait le jeûne avec des dates fraîches. Ar-rutabat, s'il n'en trouvait pas alors avec des tamarat, des dates sèches, s'il n'en trouvait pas alors hasawat minma. Parmi les sunan, le fait de faire beaucoup de dua dans la journée de Ramadan et dans les nuits de Ramadan. Et lors du iftar, il y a le dua qui nous est rapporté Zahaba al-dhama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajru insha'Allah. La soif a été étanchée, les veines sont irriguées et la récompense est avérée si Allah le veut. Et le jeûne est un moment de dua. Allah nous dit dans les versets du jeûne, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis proche. Je réponds à la demande de celui qui invoque lorsqu'il me demande. lorsqu'il me demande. Quelle est la sagesse d'avoir mis ce verset de l'invocation dans les versets du jeûne? C'est parce que Ramadan, c'est un mois de dua. Et je vous renvoie à la conférence de notre frère, le prêcheur Sadaq Abu Yahya, Hafidahullah Ta'ala, Wafaqa, qui a traité ce sujet-là. Naam, qui a traité ce sujet-là. Barakallahu fikum. Parmi les sunan, al-ikthar min taftir al-sa'imin, le fait de nourrir des jeûneurs et d'être la cause pour qu'ils puissent rompre le jeûne. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait rompre un jeûneur a la même récompense que lui, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de sa récompense. Si tu es la cause de faire rompre le jeûne à une personne, Allahu Akbar, eh ben, tu as la récompense de ton jeûne à toi, de son jeûne à lui, et lui n'a rien perdu de son jeûne. Allahu Akbar. Donc la récompense, elle est phénoménale. Imagine si chaque jour, tu es la cause qu'une personne rompt son jeûne. Imagine si tu es la cause que 10 personnes puissent rompre leur jeûne. Dans certains pays d'Afrique, l'excellent repas ne dépasse pas 2-3 euros. Donc c'est le moment de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être la cause de pallier à la faim de tes frères, à la faim de tes sœurs, à la faim de tes enfants, de tes parents, aux quatre coins du monde, qui eux sont dans la difficulté pour trouver quelques dates pour se nourrir. On peut faire de ce mois un mois où c'est du bien pour tout le monde. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah ta'ala, d'ici 2 jours, on va lancer une grande campagne, Inch'Allah, comme à l'accoutumée, l'Iftar pour tous, un repas pour tous. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide et nous assiste dans cela. Parmi les sunan, Salatul Tarawih, le fait de prier les nuits du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sama ramadana iman wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Essaie de ne pas manquer une seule nuit et tu auras cette grande récompense. Naam, on te pardonne tes péchés passés. Et en priant avec l'imam, jusqu'à ce qu'il finisse Salatul Tarawih, sache qu'on te récompense comme si tu avais prié toute la nuit jusqu'au Fajr. Allahu Akbar. Si tu pries avec l'imam, une heure et demie ou moins ou plus, eh bien sache que tu as la récompense d'avoir prié toute la nuit. Toute la nuit, et s'il y a plusieurs imams, jusqu'au dernier. Barakallahu fikum. Parmi les sunnahs, le fait de faire des efforts dans le mois de Ramadan, plus qu'à ton habitude. Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus généreuse. Et il était le plus généreux dans le mois de Ramadan lorsque Jibril le rencontrait pour lui enseigner le Coran. Donc on fait plus d'efforts dans le mois de Ramadan. Parmi les sunnahs, le fait de redoubler d'efforts dans les 10 dernières nuits. Dans le fait de redoubler d'efforts dans les 10 dernières nuits. Naam. Parmi les sunnahs, le fait de veiller dans ces 10 dernières nuits. Entre lecture du Coran, prière, dua et istighfar. Parmi les sunnahs, le fait de beaucoup dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ou Allah, tu es absoluteur. Tu es l'absoluteur. Tu aimes absoudre les fautes, absoudre donc les miennes. Tu fais beaucoup cette dua dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Parmi les sunnans, si une personne t'importune et souhaite te nuire, le fait de te contenir et de lui dire « Innimru'un sa'im » « Je suis une personne en état de jeûne. »« Je suis une personne en état de jeûne. » Naam, comme si tu te disais ça à toi-même et à lui. Naam, et à lui, pour préserver ton honneur. Et c'est comme si tu disais, je ne te réponds pas, je ne te fais rien, pas par faiblesse, mais parce que je préserve mon jeûne pour mon Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Il y a beaucoup d'autres sunan, mais on va finir avec une, qui est, Al-Umra fi Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, celui qui fait une Umra dans le mois de Ramadan, a la récompense d'un pèlerinage. Et dans une autre version, un pèlerinage avec moi, c'est-à-dire en ma compagnie. Naam. Barakallahu fikum. Il y a beaucoup de choses que les gens pensent interdites durant, interdites durant la journée de Ramadan, et ça n'est pas le cas. Donc il ne faut pas rendre interdit aux gens des choses qui ne le sont pas, comme le parfum, comme le fait de se laver, naam, comme le fait d'embrasser l'épouse si la personne peut se contenir ensuite, comme le fait de se réveiller en état de janaba alors que la personne n'a pas encore pris sa douche et que le adhan est arrivé. Cela n'est pas problématique. Cela n'est pas problématique. Comme le fait de ne pas s'être lavé après la fin des menstrues. Les menstrues sont terminées avant le fajr. C'est ce qui compte. C'est pas grave si la personne ne s'est pas lavée, si ce n'est un peu après, pour le fajr. Cela n'annule pas le jeûne. Le fait de se laver, le fait de nager, cela n'annule pas le jeûne. Le fait de se brosser les dents, le fait de se rincer la bouche, ça n'annule pas le jeûne. Le fait de se mettre de la crème ou de la pommade, ou du gel ou autre, le fait d'avaler naturellement sa salive. Naam, la personne peut aussi goûter en recrachant la nourriture pour voir si c'est assez salé ou autre. Naam, en cas de nécessité. En cas de nécessité. Le fait d'aller au dentiste, si ça ne nous amène pas à avaler quelque chose, ou de retirer une dent, ou d'aller au médecin, ou de se soigner, naam, ou de faire un, comment dire, une analyse, des analyses. Tayyib, barakallahu fikum. Le fait de s'épiler, le fait de se couper les ongles, le fait de s'embellir, tout cela, naam, tout cela n'est pas problématique. Dans le jeûne. Et on a peut-être tendance à s'éloigner de choses qui ne sont pas proscrites, tout en ayant du laxisme dans des choses desquelles il faut nous éloigner dans la journée du jeûne, comme la médisance, comme le colportage, le mensonge. Non. Comme le fait d'aller dans les bars et les cafés pour jouer aux cartes et jouer au poker ou jouer aux ces choses-là, subhanallah. Au jeu de hasard et aux paris et aux courses, hein, comme le fait de se disputer ou de couper les liens de parenté ou de nuire aux voisins. Naam, ça c'est des choses qu'il faut délaisser, c'est haram. Comme le fait d'écouter la musique, ça c'est des choses qu'il faut délaisser. Naam, le fait d'insulter, de se disputer avec les gens, hein, ou le fait de critiquer les lecteurs de Coran, ou ceux qui font des efforts dans l'adoration, ou ceux qui font des cours. Naam, ça c'est des choses desquelles il faut s'éloigner. Naam, barakallahu fikum. Puisse Allah Azza wa Jal nous enseigner notre religion, nous aider à l'appliquer de la meilleure manière. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faites des efforts dans votre journée de Ramadan, préservant les prières obligatoires, en prenant le sahur, en faisant du dhikr, en écoutant des cours, en lisant beaucoup le Coran, en allant en avance à la mosquée, en priant chaque prière à l'heure avec le groupe à la mosquée, en faisant beaucoup de dhikr, en baissant le regard, naam, en apprenant les règles du jeûne, en envoyant des rappels vérifiés de sources sûres, en priant tarawih, naam, en se faisant un programme, un objectif de lecture du Coran. Barakallahu fikum, celui qui lit 20 pages par jour. Naam, celui qui lit 20 pages par jour, hein, et ben à la fin du mois, il aura lu tout le Coran. Celui qui lit 40 pages par jour, à la fin du mois, il aura lu deux fois le Coran. Celui qui lit 60 pages, par jour, à la fin du mois, il aura lu trois fois le Coran. Fixons-nous des objectifs. Fixons-nous des objectifs. Certains, toute leur vie, n'ont pas lu une seule fois la parole d'Allah, le Seigneur des mondes. C'est grave, ikhwat al-iman. Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de la parole de notre Seigneur alors que le bonheur est dedans, alors que la guidée est dedans, alors que le remède est dedans, alors que la lumière est dedans? Tout notre bien est relatif à notre lecture, notre compréhension et l'application de ce Coran. Donc ne perdons pas notre temps. Naam. Et il faut le remplir avec le bien. Et quoi de meilleur pour le mois de Ramadan que de le remplir avec la lecture de la parole d'Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا للقرآن يا رب العالمين إنك السميع مجيب الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا يا رب يا رب يا الله اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا أجمعين الجنة وأن تعتقنا من النار وأن تتقبل صلاتنا وأن تتقبل صيامنا وأن تتقبل حسناتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهدنا واهد بنا وسددنا اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا اللهم اشف زوجاتنا اللهم اشف زوجاتنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على صيام والقيام يا رب العالمين والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.